Nous avons commencé par prendre dans la science spéculative la partie du commandement, et dans cette partie l'art de celui qui commande en son propre nom. Dans cet art même, nous avons distingué l'éducation des animaux, qui n'en est pas l'espèce la moins importante. Dans l'éducation des animaux, l'éducation des animaux qui vivent en troupe. Dans l'éducation des animaux qui vivent en troupe, l'éducation des animaux qui marchent. Dans l'éducation des animaux qui marchent, nous avons considéré principalement l'art d'élever les animaux dépourvus de cornes. Ici, la partie qu'il faut prendre n'est rien moins que triple. Si on la réunit tout entière sous un seul nom, en l'appelant l'art de conduire les races qui ne se mêlent pas. En divisant encore, il nous est resté enfin dans l'éducation des bipèdes, l'art de conduire les hommes. C'est là ce que nous cherchions, ce que nous avons appelé la science royale et politique. Fort bien. Est-il vrai, Socrate, que nous ayons fait comme tu viens de le dire? Quoi donc? Que nous ayons traité la question dans son entier et suffisamment? Ou plutôt, notre recherche n'est-elle pas fort défectueuse en ce que nous avons donné une sorte de définition, mais non une définition complète et approfondie? Comment dis-tu? Je vais tâcher d'expliquer encore plus clairement ma pensée. Dis, je te prie. La politique n'était-elle pas l'un de ces arts d'élever les troupeaux qui se sont offerts à nous en foule et ne s'occupait-elle pas d'une espèce particulière de troupeaux? Oui. Et elle a été définie un art d'élever en commun non point des chevaux ou d'autres bêtes, mais des hommes. Oui. Considérons maintenant la différence qu'il y a entre les autres pasteurs et les rois. Quelle est-elle? Ne se trouvera-t-il pas quelque autre personnage empruntant son nom d'un autre art qui prétende hautement concourir à l'entretien du troupeau? Comment dis-tu? Les marchands, par exemple, les laboureurs et tous ceux qui s'occupent du blé et des vivres, et d'un autre côté, les maîtres de gymnastique et les médecins. Tous ces gens-là, sois-en sûr, le disputeront par mille raisonnements à ceux qui dirigent les sociétés humaines et que nous avons nommés les politiques. Ils prétendront que ce sont eux qui veillent au salut des hommes, non seulement de chacun des hommes qui composent le troupeau, mais encore des chefs eux-mêmes. N'auraient-ils donc pas raison? Peut-être, c'est ce qu'il faudra examiner. Ce que nous savons au moins, c'est que nul ne le disputera au bouvier sur rien de tout cela. Le bouvier élève seul ses bœufs. Il en est le seul médecin. Lui seul s'entremet pour leur union et pour le travail de l'enfantement, et les fruits qui en naissent, lui seul connaît et remplit les fonctions d'accoucheur. Même pour les amusements et la musique, dans la mesure où ceux qui l'élèvent sont capables d'y prendre part, nul autre ne sait mieux leur plaire et les apprivoiser en exécutant, soit sur un instrument, soit avec la bouche seulement, la musique qui convient à son troupeau. Il en est aussi de même des autres pasteurs, n'est-ce pas? Cela est très vrai. Comment donc ce que nous avons dit du roi paraîtra-t-il juste et vrai quand nous le proclamons seul pasteur et nourricier du troupeau des hommes, au milieu de mille autres qui lui disputent ce titre? Cela est impossible. Nos craintes n'étaient-elles donc pas fondées, il y a quelques instants, que nous soupçonnions que, si nous rencontrions quelques traits du caractère royal, nous n'aurions pas pour cela une définition complète du politique, jusqu'à ce que, écartant ceux qui se pressent autour de lui et qui lui disputent une part dans l'éducation des hommes, nous le séparions d'eux tous pour le montrer seul dans toute sa pureté? Fort bien. C'est donc là, Socrate, ce qu'il nous faut faire, si à la fin de notre discours, nous ne voulons pas avoir à en rougir. Évitons à tout prix cette honte. Il faut donc recommencer encore une fois en prenant par une autre route. Laquelle? En entremêlant ici une sorte de badinage. Il s'agit de prendre une partie considérable d'une très longue fable, et ensuite, en séparant toujours, comme dans nos recherches précédentes, une partie d'une autre partie, de trouver au bout ce que nous cherchons. Ne le ferons-nous pas? Sans aucun doute. Prête donc toute ton attention à ma fable comme les enfants, aussi bien tu n'es pas si loin encore des années de l'enfance. Dis, je te prie. Parmi d'autres traditions antiques qui subsistent aujourd'hui et qui subsisteront dans l'avenir, se trouve celle du prodige qui survint dans la fameuse querelle d'Atrée et de Thyeste. Tu as sans doute appris et tu te rappelles ce qui arriva, dit-on, en cette occasion. Tu parles peut-être du prodige de la brebis d'or? Non pas, mais du changement du coucher et du lever du soleil et des autres astres. Il se couchait alors dans l'endroit où il se lève maintenant et se levait du côté opposé. C'est la divinité qui, pour donner un signe de sa présence à Atrée, changea cet ordre en celui qui existe aujourd'hui. Oui, on raconte aussi cela. Un autre récit que nous avons entendu souvent répéter, c'est celui du règne de Chronos. Très souvent, en effet. Et cet autre, que les anciens hommes étaient fils de la terre et ne naissaient pas les uns des autres. C'est encore là une des anciennes traditions. Tous ces prodiges tiennent à un même état de choses. Cela et mille autres plus étonnants encore. Mais à cause du long espace de temps, les uns sont tombés dans l'oubli, les autres ont été détachés de l'ensemble qu'ils formaient et se racontent séparément. Mais pour l'événement qui est la cause de tout cela, personne n'en a parlé et il faut le faire en ce moment. Le récit en sera utile pour la définition du roi. Voilà qui est bien dit. Parle sans rien omettre. Écoute donc. Tantôt, Dieu lui-même fait mouvoir en cercle cet univers en le dirigeant dans son cours. Tantôt, il l'abandonne quand ses révolutions ont rempli la mesure du temps marqué. Demande alors se meut par lui-même et décrit un cercle en sens contraire. Car il est animé, il a reçu l'intelligence de celui qu'il a ordonné dans le principe. Quant à cette marche rétrograde, elle a une cause nécessaire qui est innée en lui et que voici. Laquelle donc ? Subsister toujours également et de la même manière. Être toujours le même n'appartient qu'aux êtres les plus divins. Mais la nature du corps n'est pas d'un ordre si élevé. Or cet être que nous avons nommé le ciel et le monde a reçu, il est vrai, de son auteur beaucoup de qualités admirables. Mais en même temps, il participe du corps. C'est pour cela qu'il lui est absolument impossible d'échapper à la loi du changement. Mais du moins, autant que possible, il se meut dans le même lieu, dans le même sens et d'un même mouvement. Aussi, le mouvement qui lui est naturel est le circulaire, c'est-à-dire celui qui s'écarte le moins du mouvement de ceux qui se meut soi-même. Se mouvoir éternellement soi-même n'est guère possible qu'à l'être seul qui dirige tout ce qui se meut. Et cet être ne saurait mouvoir tantôt d'une manière opposée. D'après tout cela, il ne faut dire ni que le monde se meut éternellement soi-même, ni qu'il reçoit éternellement de la divinité seule ces deux mouvements contraires, ni enfin qu'il est mu par deux divinités de volonté opposée. Mais selon notre explication de tout à l'heure, la seule qui reste, disons que tantôt, dirigé par une cause divine étrangère à lui, il rentre en possession de la vie et reçoit des mains du céleste artisan une immortalité nouvelle. Tantôt, quand il est laissé à soi seul, il se meut de lui-même, ainsi abandonné, pendant un temps suffisant pour accomplir plusieurs milliers de révolutions rétrogrades, parce que sa masse immense, également suspendue de toutes parts, ne tourne que sur un point d'appui très étroit. Tout ce que tu viens de raconter semble vraiment fort probable. Considérons maintenant la circonstance que nous avons dit être la cause de tous les prodiges. C'est celle-ci. Laquelle ? Celle du mouvement de l'univers qui décrit un cercle, tantôt dans le sens suivant lequel il tourne présentement, tantôt dans le sens contraire. Comment cela ? On doit croire que ce changement est le plus grand et le plus complet qui arrive dans le ciel. Cela est vraisemblable. Il faut donc penser que c'est alors aussi que s'opèrent les plus grands changements pour nous qui habitons au sein de ce monde. Cela est encore probable. Mais ne savons-nous pas que la nature des animaux supporte difficilement des changements graves, nombreux et divers ? Qui l'ignore ? Alors nécessairement, de grands désastres fondent sur les animaux. Bien peu d'hommes survivent, et ceux-ci même éprouvent toutes sortes de choses étranges et nouvelles. Mais voici la plus extraordinaire. Celle qui résulte immédiatement de la rétrogradation du monde, lorsqu'un mouvement semblable à celui qui s'exécute aujourd'hui succède le mouvement contraire. Qu'est-ce donc ? C'est que, d'abord, l'âge qu'avait chacun des êtres animés s'arrêta. Tout ce qui était mortel cessa de s'acheminer vers la vieillesse, et changeant en sens contraire, redevint, pour ainsi dire, plus jeune et plus délicat. Au vieillard, les cheveux blancs noircissaient. Les joues de ceux qui avaient de la barbe, perdant leur rudesse, les rendaient tous à leur jeunesse passée. Les membres des jeunes gens, devenant chaque jour et chaque nuit plus délicats et plus petits, reprenaient la forme d'un enfant nouveau-né, et l'âme changeait comme le corps. Puis, s'amoindrissant de plus en plus, ils finissaient par disparaître entièrement. Pour ceux qui avaient péri de mort violente au moment du changement, leur corps passait par les mêmes états avec une rapidité qui ne permettait pas de les reconnaître, et peu de jours suffisaient pour les anéantir. Mais qu'était-ce alors aux étrangers que la propagation des êtres animés ? Et comment se reproduisaient-ils les uns les autres ? Il est évident, Socrate, que la reproduction des uns par les autres n'était pas dans la nature d'alors, mais que les hommes revenaient du sein de la terre qui les avait reçus. C'est là ce qu'il faut entendre par cette race de fils de la terre dont le souvenir s'est conservé et nous a été transmis par nos premiers ancêtres, voisins du temps où finit la révolution précédente et nés au commencement de celle-ci. C'est d'eux que nous tenons cette tradition, à laquelle beaucoup de gens refusent aujourd'hui d'ajouter foi, mais à tort, car il faut, ce me semble, faire cette réflexion. Si les vieillards revenaient aux formes de l'enfance, c'en était une suite que ceux qui étaient morts et ensevelis dans la terre suivissent, en ressuscitant et en revenant à la vie, le mouvement général qui ramenait en sens contraire la génération, et que de leur origine on les nomma fils de la terre. Tous ceux, du moins, que la divinité n'éleva pas à une autre destinée. En effet, c'est une conséquence naturelle de ce qui précède. Mais ce genre de vie que tu rapportes au règne de Chronos, appartient-il à cet autre ordre de choses ou bien à celui d'aujourd'hui? Car pour le changement du cours des astres et du soleil, il est évident qu'il a dû avoir lieu dans l'une et dans l'autre des deux périodes. Tu as fort bien suivi mon récit. Quand, au temps dont tu me parles, où tout naissait de soi-même pour les hommes, il n'appartient pas au cours présent du monde, mais bien comme le reste à celui qui a précédé. Car alors Dieu dirigeait le mouvement circulaire de l'ensemble. Toutes les différentes parties du monde étaient divisées, comme aujourd'hui, par régions entre des dieux qui les gouvernaient. Les animaux même étaient tombés en partage, par genre et par troupe, à des démons qui leur servaient comme de divins pasteurs, et dont chacun suffisait à tous les besoins de son troupeau. En sorte qu'il n'y avait point d'animaux qui fussent féroces, qu'ils ne s'élèveraient point entre eux, et qu'on ne voyait ni guerre ni querelle d'aucune espèce. Enfin, tous les biens qui naissaient d'un si bel état de choses seraient infinis à redire. Quant à ce qu'on raconte de la vie des hommes pour qui tout naissait de soi-même, voici quelle en est la cause. Dieu lui-même, placé à la tête de l'humanité, la conduisait, comme aujourd'hui l'homme, en qualité d'animal de nature différente et plus divine, conduit les races inférieures. Or, sous ce gouvernement, il n'y avait ni cité, ni mariage, ni famille. Les hommes ressuscités du sein de la terre sans se rappeler rien de ce qui avait précédé. Toutes ces choses leur étaient étrangères. Ils recueillaient sur les chênes et sur beaucoup d'autres arbres des fruits abondants que la culture n'avait pas fait naître et que la terre donnait d'elle-même. Ils vivaient la plupart du temps nus, errants et sans abri, car la température modérée des saisons ne pouvait les faire souffrir, et ils trouvaient un lit moelleux dans l'épais gazon qui sortait de la terre. Telle était, Socrate, la vie des hommes au temps de Chronos. Quant à celle à laquelle préside, dit-on, Jupiter, c'est celle de notre temps et tu la connais par expérience. Pourrais-tu bien maintenant et voudrais-tu décider quelle est la plus heureuse des deux? En aucune façon. Veux-tu donc que j'essaye de décider? Très volontiers.